et Fils de Jésus, nous sommes unis ensemble autour de sa parole. Voilà, je salue tous ceux qui sont rentrés en cours. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous invite à reprendre le texte de base dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, nous allons lire quelques versets. À partir du verset 27, on peut aller. Jean chapitre 3, verset 27. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » On va faire une deuxième lecture, garder ce texte de base. On fait une deuxième lecture dans l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens. Et on ira au chapitre 3 de cet épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 3. Et nous lirons cette prière de l'apôtre Paul. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous reprenons notre méditation sur l'évangile de Jean, c'est l'évangile du Fils de Dieu. Le désir de Dieu au travers de sa parole, c'est que la foi naisse dans nos cœurs, que nous soyons convaincus, que nous nous attachions à cette parole, à ses promesses dans notre cœur et que nous ayons la vie éternelle. Dans Jean chapitre 20, verset 31, il est dit « Ces choses ont été écrites » afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà le but de cette parole, c'est que la foi naisse, et nous l'avons lu au verset 36 également, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Que la foi puisse naître, mais que la foi puisse grandir. En croyant, en obéissant au Christ, nous échappons à la colère, au jugement de Dieu. Et nous l'avons lu dans le dernier verset de ce chapitre, au jugement de Dieu qui repose sur tous ceux qui ne croient pas et n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Et ce matin, au milieu de nous, dans les maisons, si quelqu'un n'avait pas encore mis sa vie en règle avec Dieu, il peut le faire. C'est un moment qu'en croyant, en disant, voilà, c'est la vérité, tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu, c'est la vérité. Et donc, si la Bible dit que je suis un pécheur et que j'ai besoin de Jésus comme sauveur, j'ai besoin du sang de Jésus, de la croix, afin d'être sauvé, faites-le. C'est un appel que le Seigneur vous adresse aussi ce matin, afin que vous soyez sauvés. Mais dans le texte que nous avons lu, et dans toute la parole d'ailleurs, il y a un appel à grandir, un appel à grandir dans la foi, dans la connaissance, dans l'amour, dans l'humilité, dans la soumission, dans la vie de l'esprit, et j'en passe. Et ça s'adresse à nous qui sommes sauvés. Nous voulons grandir, et Dieu veut que nous puissions grandir, que nous atteignions cette maturité. N'oublions pas que la parole et le Saint-Esprit qui nous ont été donnés, la parole, nous l'avons, non seulement dans nos mains, mais j'espère aussi dans nos cœurs, et le Saint-Esprit qui a été répandu, eh bien, la parole et l'Esprit sont suffisants pour nous amener à la maturité spirituelle. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Chapitre 1, verset 3, il est dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Dieu nous a tout donné, nous a légué, nous a communiqué tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions grandir, nous fortifier et arriver peu à peu à maturité, en sagesse, en discernement, en connaissance. C'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous et personne n'est exclu. Personne ne peut dire « moi, je suis trop faible, je suis trop… » Non, non, Dieu s'adresse à tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur afin qu'ils puissent grandir. Alors, dans notre texte, il est question de Jean-Baptiste. Et on va s'y arrêter ce matin. Jean-Baptiste qui avait compris déjà beaucoup de choses à qui Dieu a pu révéler ces choses. Le Saint-Esprit avait un accès dans sa vie. Ce n'était pas… Saint-Esprit agissait dans sa vie. Et il n'était pas spirituel parce qu'il était de la parenté de Jésus, dans sa famille, son cousin. Voilà, ce n'est pas pour cela qu'il était spirituel, mais c'est parce qu'il y avait la main de Dieu sur lui, il y avait l'appel de Dieu, il y avait le Saint-Esprit qui avait un accès dans sa vie. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Ce n'est pas à cause ou grâce à quelqu'un de notre famille que nous sommes moins spirituels ou plus spirituels, mais ce n'est pas ça du tout. Il n'y a rien qui entre en jeu, mais ce qui fera de nous un être, une femme, un jeune homme, une jeune fille spirituelle, c'est que le Saint-Esprit a un accès, c'est que mon cœur est ouvert, la soif et la main de Dieu est sur moi. C'est cela qui fera de moi eh bien, un être spirituel. En tous les cas, Jean-Baptiste a été un instrument entre les mains de Dieu. Et Jésus dira de lui, j'aimerais le souligner ce matin, Jésus dira de Jean-Baptiste, il était grand. Vous le trouvez dans Luc au chapitre 11 et verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. J'espère que j'ai la bonne référence. 11, 11. C'est peut-être pas la bonne référence. Je viens de m'en apercevoir en la citant et je vais revenir vite à la bonne référence pour ne pas vous induire. Voilà, c'est dans Matthieu, pardon. Excusez-moi, c'est dans Matthieu, chapitre 11 et verset 11. On a le verset exact, je ne sais pas pourquoi j'ai mis. Voilà, Matthieu 11, 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Aux yeux de Jésus, Jean-Baptiste était grand. Et il dira plus loin, quand vous continuez la lecture dans Matthieu 11, 11 au 12, il dira que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, ça nous concerne. Tous ceux qui sont dans le royaume, tous ceux qui sont entrés, sont plus grands, dira Jésus. C'est lui qui le dit. Alors, c'est intéressant de méditer sur la vie et le ministère de celui qui fut appelé grand, qui fut appelé le précurseur. Pourquoi finalement ce témoignage de Jésus à son égard? Alors, l'Évangile, la parole de Dieu, n'est pas au-delà de notre portée. Ce n'est pas inatteignable. On a l'impression, quand on lit ces quelques versets, cette méditation, on se dit, mais pour moi, est-ce que c'est possible que j'arrive à comprendre, à être illuminé par le Saint-Esprit, à comprendre la parole, à grandir en sagesse, en force, en foi? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Sinon, Dieu n'aurait jamais donné sa parole et ses enseignements pour nous faire justement grandir. Dieu ne l'aurait jamais fait si c'était inatteignable. Donc, ce matin, c'est atteignable pour chacun d'entre nous si nous laissons bien sûr le Saint-Esprit agir dans nos vies. C'est à la portée de chacun d'entre nous. C'est le but que Dieu s'est fixé en nous donnant cette parole et le Saint-Esprit pour nous aider. Petite parenthèse, on a besoin de formation spirituelle, biblique, théologique, tout ce qu'on en suit en ce moment. On a besoin d'une formation. Et nous trouvons toutes sortes de formations dans des livres, sur Internet. Bon, il y a du bon et du moins bon, il faut trier. Mais je crois qu'au-delà de la formation, nous avons plus besoin de transformation. Les choses simples de la parole, s'il y a une transformation en nous, elles vont intégrer notre vie. On peut avoir beaucoup de formation et ça peut être seulement intellectuel. Donc, on a besoin des deux, bien sûr, mais le plus urgent, c'est la transformation de notre être intérieur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il est écrit ceci, « Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur ou par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés, c'est ce que Dieu veut faire. Au-delà de tout ce que nous pouvons apprendre, au-delà de tout ce que nous pouvons, tout ce qui peut nous être communiqué, le Seigneur veut atteindre notre cœur et notre vie et nous transformer en la même image de Christ. Un homme grand, c'est un homme dans lequel Christ est grand. C'est un homme dans lequel l'Esprit est grand. C'est un homme, une femme dans lequel la parole a une grande place. L'Esprit du Seigneur a une grande liberté d'action. Cet Esprit peut convaincre, non seulement convaincre, mais nous transformer, nous délivrer. Parce que Dieu nous montre quelque chose, c'est pour nous en débarrasser et nous en délivrer quand il y a repentance. Alors, cet esprit qui fait cruellement défaut dans nos églises, dans l'église actuelle, dans les églises, dans le monde, le Saint-Esprit, comme je disais, je ne sais plus quand, on en parle tellement, mais il fait cruellement défaut. Et quand il n'y a pas la place, quand il n'y a pas de la place pour l'esprit, eh bien, il y a un peu plus de place pour les choses négatives. Voilà. Nous avons besoin, l'église a besoin, j'ai besoin. Vous avez besoin de plus de place pour le Saint-Esprit dans notre cœur. Avant de prononcer cette parole de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Avant même de la prononcer, sa vie tout entière l'avait exprimé, ça. Il faut qu'il croisse, que Jésus soit grand, qu'il prenne plus de place, qu'il progresse et que moi je diminue. Dans sa vie, Jean-Baptiste, eh bien, c'était déjà réel. Il n'a pas donné une parole comme cela, mais c'était réel. Alors, dans tout ce que Jean-Baptiste a exprimé dans sa vie, on s'aperçoit que Jésus était tellement grand, tellement glorieux, tellement élevé. Et lui, on le voit, il s'efface. Toujours il s'efface. Quelques versets ont évolué dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Il dit, moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. afin de vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » On voit là dans ces quelques paroles toute l'humilité, on voit dans ces paroles les limites que Jean-Baptiste se fixe par rapport à Jésus, par rapport au ministère de Jésus. Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a pas de mélange, tout est bien séparé. Moi, je vous baptise. Donc voilà ce pourquoi j'ai été envoyé, ma mission, elle est là. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous apportera quelque chose du ciel, du cœur de Dieu, quelque chose de l'esprit, quelque chose de spirituel. Lui, Jésus, et lui seul peut faire cette œuvre. Moi, je peux vous amener au baptême, mais Jésus, lui, c'est lui qui transforme, c'est lui qui remplit, qui baptise du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Jean 3, 27, nous l'avons lu, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quelle parole! Et nous voyons tous les hommes de Dieu, vous pouvez étudier, vous le faites dans la parole. Par exemple, Paul, il dit « Ce n'est pas que par nous-mêmes nous soyons capables de concevoir quoi que ce soit. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. » Vous trouvez cela dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 6. Et il dit « Mais nous, on n'a aucune capacité dans le domaine spirituel, dans le domaine du royaume de Dieu, on n'a aucune capacité. » Notre capacité vient de Dieu. On ne l'a pas inventée, ce n'est pas venu de nous-mêmes, de quelqu'un d'autre, mais ça vient de Dieu. Notre capacité pour produire quelque chose qui vienne glorifier le Seigneur, ça vient du ciel. Et là, nous nous apercevons, dans 3.31, il est dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. » Et nous nous apercevons que Jésus a enseigné la même chose à Nicodème, les choses terrestres et les choses célestes. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucune ambiguïté, tout ce qui vient du ciel n'a rien à voir avec ce qui est de la terre. L'influence, la puissance, le salut, la nouvelle naissance, l'appel au ministère, les dons spirituels ne viennent pas de la terre. Ce n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas juste une compréhension de texte, mais ça va bien au-delà, ça vient d'en haut, ça vient du cœur de Dieu. Il faut que nous en soyons convaincus et encore convaincus. Tout ce qui est spirituel vient d'en haut, de Christ, de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, il nous faut, à l'image de Jean-Baptiste, voir Jésus tel qu'il est, réaliser qui il est, sa grandeur, sa gloire, son autorité, son amour, sa sainteté. Et je crois que la Bible pointe vers cela tout le long, la révélation de Christ, tout le long. Elle nous montre et petit à petit, jusque dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est plus moi, ce n'est pas ma vie qui importe, ce n'est pas mes besoins, mes problèmes, mes ambitions, mon bonheur. Ce n'est pas cela qui doit primer. Devant lui, je m'incline, je me prosterne, je m'efface. Tellement il est grand, tellement il est glorieux. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, je n'ai pas relevé le verset, mais dans le chapitre 1er, on voit Jean qui voit Christ tel qu'il est. Là, le Seigneur se révèle, mais peu à peu aux hommes. Mais dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est resplendissant de gloire tel qu'il est en réalité. Et Jean tombe à terre comme mort. Ça, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître, il est cela. Et Jean-Baptiste dira, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » dans Jean chapitre 1, verset 29. Lui, c'est lui qui ôte le péché, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve. Mais enfin, Jean, ceux qui étaient autour, mais enfin Jean, toi dis-nous, que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Quel est ton ministère, ta vie? Je paraphrase, hein, tes ambitions, mais Jean quand même. Les gens nous demandent finalement quel est ton ministère, qui es-tu? Mais c'est pas moi qui suis important, c'est Christ. Et dans Jean 1, 23, eh bien, Jean-Baptiste dira, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voilà comment il se définit. Il ne met même pas un corps, même pas des ambitions, même pas. Il ne met rien. Il dit, je suis simplement une voix, la voix qui crie dans le désert. Pour définir sa vie, finalement, il dit, je suis juste une voix. Il ne parle même pas de son corps, de ses besoins, de ses affections. Non, il dit, moi, je suis une voix. Alors, pour rétablir les choses, Jésus prend soin de nous. Mais pour dire les choses autrement, on se focalise tellement notre personne, sur nos besoins, sur tout ce que j'ai déjà dit, alors qu'il nous faut nous focaliser sur lui. Et quel est le résultat si nous nous focalisons sur Christ, s'il se révèle en nous? Eh bien, nos besoins seront pourvus. Notre cœur sera dans la paix, dans la joie. Dans Matthieu 6, 33, Jésus le dira ainsi. Il dit, mais ne soyez pas comme les gens du monde qui recherchent ceci, cela, le manger, le boire, les vêtements, le bien-être. Ce sont les gens du monde, les païens qui cherchent ces choses. Je vous le dis, pour vous, chrétiens, pour nous, croyants, quelle doit être notre recherche? Le royaume de Dieu. Cherchez d'abord, en premier, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, tous ceux dont les païens, ben ça vous sera donné par-dessus, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en communion avec Christ, si vous êtes dans le royaume, si l'Esprit de Dieu agit, mais tout le reste dans votre vie va être pourvu. Vous voyez comment on fait les choses des fois un petit peu à l'envers, on se place nous, nos besoins, et on focalise sur cela, et finalement, eh bien, nos besoins ne sont pas tant pourvus, on n'est pas tellement en paix, on n'est pas tellement... Tandis que là, le Christ, comme Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, n'essayez pas de m'élever, je paraphrase encore, mais Jean-Baptiste aurait pu dire, n'essayez pas de m'élever, n'essayez pas de me donner un titre, n'essayez pas de me donner quelque chose de glorieux en moi. Non, non et non, il n'y a pas de gloire en moi, la gloire elle est à Christ. D'ailleurs, son espace pour prêcher, c'était le désert. Ce n'était pas Jérusalem, il ne cherchait pas les foules, ce n'est pas lui qui courait, mais c'est les gens qui venaient dans le désert. Et son message, ben, ce n'était pas un message, comment dire, populaire. Jean-Baptiste, il a été envoyé pour aplanir le sentier, pour défricher, pour combler les creux, pour rendre praticable le chemin, pour que le Seigneur, lui, arrive et lui annonce au peuple. Il n'y a rien de glorieux, d'ailleurs il ne fait aucun miracle, il n'y a pas eu de guérison dans son ministère, il n'y a rien de glorieux sur le plan humain, mais Jean-Baptiste, ce qu'il voulait, c'est que le Christ prenne toute la place. Alors Jean-Baptiste a eu une vie très simple, il n'a jamais voulu attirer le regard sur d'ailleurs, nous le voyons au travers de sa vie toute simple, ses vêtements, sa nourriture, j'ai eu déjà l'occasion d'en parler, mais il était vêtu simplement d'un vêtement de poil de chameau, il était une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien sûr, il y a une symbolique dans ces éléments. Il avait le vêtement du prophète dans l'Ancien Testament, le vêtement d'Élie. Le prophète, mais ça a quand même une symbolique, le chameau, le vêtement de poil de chameau, et quand on réfléchit au chameau, il est un formidable serviteur, le chameau. Il peut porter des poids très élevés, il peut marcher longtemps dans le désert parce qu'il a de la réserve. Et quand il arrive à l'endroit fixé, eh bien, nous le voyons, il fléchit les genoux. Et ça nous parle, bien sûr, tout cela, ça nous parle de persévérance, ça nous parle de... C'est pas lui le chameau qui est important dans le désert, c'est celui qui est sur le chameau, et il peut persévérer, il peut continuer, et pour nous, ça nous parle de notre vie de prière, de persévérance, de recevoir du Seigneur, de remplir notre cœur des choses, ce bon dépôt que le Seigneur aura mis dans nos vies. Il faut le faire chaque jour. Et c'est ce qui va nous permettre de persévérer dans les moments difficiles, de, de persévérer véritablement, c'est cela, ce que nous recevons. Je vais rapidement, il avait une structure, nous en avons parlé dans, le mardi soir sur l'étude, donc sur la, le combat spirituel. Dans Éphésiens 6, la ceinture, eh bien, c'est le symbole de la ceinture, bien sûr, qui tient tout. Tout le reste, c'est la ceinture de vérité. Le miel sauvage, une nourriture excellente, fortifiante pour le corps, mais elle ne se trouvait pas au coin des rues de Jérusalem. Ce miel sauvage, il fallait aller le chercher dans des endroits parfois retirés, mais ça fortifiait tellement le corps. La parole de Dieu, il faut la méditer, bien sûr, vous le savez, nous le disons, il faut la lire, la méditer, nous-mêmes, par nous-mêmes. Et bien sûr, il y a la méditation des autres, et qui nous fait du bien. Nous avons des méditations quotidiennes, des choses qui nous font du bien. Mais ça ne remplacera jamais notre méditation personnelle. Ce que nous allons découvrir et ce que le Seigneur va nous révéler dans notre méditation personnelle, eh bien, ça sera encore plus fort que ce que les autres ont découvert pour eux-mêmes et le font partager, bien sûr. Alors, ça nous fait du bien, la méditation des autres, mais ce qui va vraiment aller au plus profond, c'est ce que le Seigneur va nous révéler à nous personnellement quand nous méditons la parole de Dieu, et c'est ce que je vous transmets, ce que j'ai médité dans ces quelques versets qui sont le support ou la base de notre étude de chaque jour. Alors, de chaque dimanche, pardon. La sauterelle est souvent employée comme un moyen de jugement dans l'Ancien Testament, mais il est aussi parlé dans le Nouveau Testament. La sauterelle qui ravage les plantations, qui est le symbole du jugement de Dieu à cause d'un peuple qui s'est éloigné, un peuple qui a été idolâtre, qui s'est détourné des voies du Seigneur. Il y a le jugement dans l'Ancien Testament souvent, et bien les questions du jugement de la sauterelle. Alors ce qui est un jugement pour les autres est un moyen de bénédiction pour nous. Alors je m'explique. Ça fait ressortir encore plus, resplendir la gloire du Seigneur davantage. L'évangile qui sauve les uns et qui condamne les autres. Ceux qui n'ont pas obéi dans l'évangile de Marc et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas à cette même parole, ce même évangile, sera condamné. Voyez que ce qui est une bénédiction pour nous est un jugement pour les autres. Tant qu'ils ne se convertissent pas, tant qu'ils ne se donnent pas au Seigneur, c'est un jugement pour les autres. Et nous voyons également que Jean-Baptiste est allé jusqu'au bout. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui citait des phrases, qui citait des versets. Mais c'est quelqu'un qui vivait et qui est allé jusqu'au bout de sa démarche. Souvenons-nous de l'épisode où il va dénoncer le péché chez Hérode, Hérodias, il va dénoncer le péché. Il est allé jusqu'au bout et ça lui a coûté la vie. Tellement la vérité, tellement Jésus était important pour lui, il est allé jusqu'à la mort, jusqu'à la prison d'abord, et ensuite jusqu'à la mort, parce qu'il a dénoncé le péché. Ce n'était pas dans sa vie, il faut qu'il croisse et que je diminue, ce n'était pas un slogan, ce n'était pas une phrase comme ça, ça fait bien, ah oui, d'accord, il faut que… Non, 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 Jésus prenait toujours plus de place dans sa vie, la vérité prenait toujours plus de place, le Saint-Esprit prenait toujours plus de place, et donc il l'a démontré par sa vie et par sa mort, et bien que Jésus avait cette place prépondérante dans sa vie, il en a payé de la sienne. On s'aperçoit que la vie de Jean-Baptiste était conditionnée par le Christ. Par le Christ. La révélation qu'il a eue de Jésus a fait que tout le reste de sa vie était orienté, dirigé sur la personne de Christ, son ministère tourné autour de Christ. comme la Terre tourne autour du Soleil, et pas l'inverse, eh bien là, ce n'est pas Jésus qui tournait autour de lui pour voir ce qu'il pouvait faire pour Jean-Baptiste, mais c'était Jean-Baptiste qui était soumis et qui s'effaçait devant le Christ. Lui, il avait accompli son ministère, sa mission, sa vocation. Il s'effaçait et c'était le Christ qui prenait la place. N'en est-il pas ainsi pour nos vies? Quand j'ai prêché la parole, quand nous avons prié, nous nous effaçons et nous laissons le Seigneur agir. Devant cette parole, Dieu va agir et je prie pour que le Seigneur agisse dans chacun de nos cœurs et que Christ devienne tellement, tellement grand dans nos vies, tellement glorieux. C'est pas un ami, c'est pas un pote, c'est pas voilà, mais il faut qu'il prenne beaucoup plus de place, que l'on soit conscient quand nous prions, quand nous évoluons, il y a certaines choses qu'on ne fera plus en ayant la conscience que Jésus est tellement glorieux, tellement grand, tellement puissant, et il est là pas seulement quand on prie, mais il est là tous les jours de notre vie. Il y a des choses qu'on ne se permettra plus de faire parce que Jésus prendra beaucoup plus de place. Comme dans le ministère de Jean-Baptiste, il aurait pu dire dans cette maison d'Hérode, bon ça va, je comprends qui tu es, je comprends que vous ayez des écarts, parce que c'était quand même des inconvertis. Et non, il est allé jusqu'au bout en dénonçant le péché, en mettant en évidence la vérité de Dieu. Alors toute notre vie chrétienne doit tourner autour de cette révélation que j'ai de Jésus. Est-ce que j'ai vraiment réalisé dans mon cœur qui il est? D'ailleurs, Jésus se retournera un jour et il dira à ceux qui marchaient avec lui, « Qui dit-on que je suis ?» Est-ce que les gens ont bien compris qui je suis? Est-ce qu'ils ont réalisé que je suis le Fils de Dieu, que j'ai toute autorité dans le ciel, sur la terre, que j'ai le pouvoir, est-ce qu'ils ont réalisé que mon amour dépasse tout entendement, que c'est tellement puissant? Est-ce qu'ils l'ont réalisé? Qui dit-on que je suis? Les uns disent ceci, les autres cela. Et vous, qui dites-vous que je suis? Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ça, ce n'est pas une invention d'homme, ça, c'est mon Père qui te l'a révélé. Voyez, tout va tourner autour de cela dans notre vie chrétienne, au travers de sa parole, de son esprit, que le Christ puisse se révéler tel qu'il est, qui il est vraiment. Alors sa parole aura un autre relief. La prière aura encore un autre relief. L'amour que je peux manifester. Le centre, c'est Christ. Dans la parole, le centre, c'est Christ. Dans nos vies, il faut qu'il en soit de même. Ah oui, mais moi, on m'a fait ceci, on m'a fait... Oui, mais c'est Christ. Notre vie, elle est livrée, elle doit être livrée entre les mains du Seigneur. Et quand nous sommes délivrés de cela, il y a une grande, grande, grande joie, comme l'ami de l'époux se réjouit en entendant sa voix. Finalement, réaliser, comprendre qui est Dieu, qui est Jésus, m'amène à comprendre vraiment qui je suis. Mes limites, mon espace, ça m'amène à réaliser ça dans ma vie. Et ça me délivre. Écoutez bien, ça me délivre de beaucoup de choses. Il faut que nous en soyons convaincus. On aura dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, nous aurons un invité, mais dans 15 jours, on conclura cette méditation. On pourrait parler longtemps, mais on va conclure dans 15 jours. Et nous verrons ensemble l'ami de l'époux et la joie d'entendre la parole, mais également l'humilité qui précède la gloire et l'orgueil qui précède la chute. On verra cela ensemble, que le Seigneur nous aide, nous fortifie au travers de cela et qu'on puisse toujours plus réaliser qui il est. Qui est le Seigneur vraiment? Quelle place a-t-il dans ma vie? Quelle autorité a-t-il? Quelle latitude a-t-il d'agir dans l'Église? Est-ce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois qui a toute autorité? Ou bien est-ce que c'est ma pensée? Moi, je vois ça comme ça, l'autre, il voit ça comme ça. Non, c'est Christ. On doit plier les genoux devant lui. Si, bien sûr, s'il s'est révélé, si, si le Saint-Esprit, la parole, nous a révélé sa grandeur, son autorité. Sinon, on ne peut pas le faire. Sinon, c'est moi, ce que je pense, comment je vois. Ça n'a rien à voir. C'est Christ qui doit prendre toute la place dans nos vies et dans l'Église. Je vais prier le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Je vais prier pour cela. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que ce n'est pas de la théorie. Nous trouvons des témoins dans ta parole qui ont vécu. C'était quand même des hommes, mais ils ont vécu plus près de toi que nous. Seigneur, et nous voyons l'enseignement, nous voyons leurs témoignages, les traces qu'ils ont laissées. Et Seigneur, nous voulons marcher sur les traces de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui ont été des témoins, qui sont allés plus loin que nous sur le chemin de la foi, de la sanctification, de l'amour. Ils sont allés plus loin. Et pour nous, c'est des exemples. Mais l'exemple par excellence, c'est toi, Seigneur. L'exemple par excellence, c'est celui dont ces témoins pointaient du doigt. Et celui dont ils pointaient du doigt, c'est toi, Seigneur Jésus. Alors nous voulons, ouais Seigneur, révèle-toi davantage dans nos vies. Révèle-nous davantage ta grandeur, ton amour, ta sainteté, ta gloire, Seigneur, afin que l'on se fasse tout petit. Seigneur, on prend tellement de place, tellement de susceptibilité, d'orgueil, tellement de choses dans nos vies qui t'empêchent d'agir. Seigneur, je te prie que ton esprit ait un accès aujourd'hui dans notre cœur. Je te le demande, Père, au nom de Jésus, bénis chaque maison. Ceux qui ont pu se connecter, ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, ceux qui sont âgés, Seigneur, visite-les, bénis-les, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je rends l'antenne à Jacques.
Merci, Seigneur. Moi, je vais juste dire.